Radio Kapi.
Les informations, Blaise Findani Kambala.
Grand plaisir de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ces moments. Mais suivons d'abord les titres de ce journal. Plus de 500 ménages ont regagné Nyamamba à Ituri en l'espace de 3 jours suite à l'accalmie sécuritaire observée ces derniers mois dans cette zone. Cependant, ces familles, parmi lesquelles des femmes et des enfants, passent la nuit à la Belle Étoile, faute d'abri. Depuis vendredi à Lubumbashi, des audiences en procédure de flagrance à la cour d'appel du Haut-Katanga qui oppose le ministère public à 3 magistrats de la cour d'appel du Tanganyika et 1 commerçant. Ils sont poursuivis pour corruption dans une affaire de tentative de viol avec violence. Le centre des opérations des urgences de la santé publique digitalise désormais le traitement des informations afin d'optimiser la gestion des rumeurs et des infodémies à travers le pays. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur de cette structure relevant de l'Institut national de la santé publique, Christian Ngando. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous. À la suite de l'accalmie sécuritaire observée ces derniers mois à Nyamamba, dans la plaine du lac Albert, en province de l'Ituri, plus de 500 ménages ont regagné cette zone en l'espace de 3 jours. Cependant, ces familles, parmi lesquelles des femmes et des enfants, passent la nuit à la Belle Étoile faute d'abri. Leurs habitations avaient été détruites lors des affrontements survenus l'année dernière entre le FARDC et les éléments de la rébellion CRP, Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga. Ces retournés lancent aujourd'hui un appel pressant à l'aide. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ces ménages proviennent principalement des sites de déplacés de Chomia et Kasseni. D'autres reviennent de l'Ouganda où ils s'étaient réfugiés pour fuir des combats qui ont duré près de 8 mois. Depuis plusieurs mois, les autorités locales mènent des campagnes de sensibilisation en faveur du retour volontaire dans les villages d'origine. Un message qui a trouvé un écho favorable auprès de ces populations vivant dans une grande précarité, notamment en raison du manque d'assistance humanitaire. Mais une fois sur place, les difficultés sont immenses. C'est Lord Hakim Biaruhanga, responsable de l'ONG Coardo. Nyamamba ressemble aujourd'hui à un village fantôme. Il n'y a ni maison, ni latrine. Les retournés passent la nuit sous les arbres. Tout a été rasé lors des affrontements de l'année dernière, témoigne cet activiste des droits humains qui appelle à l'aide d'urgence.
Les besoins sont urgents. Abri d'urgence, eau potable et besoins élémentaires. Nous appelons les personnes de bonne foi, les humanitaires et les autorités à venir en aide à cette population qui passe ses nuits à la Belle Étoile.
Le seul centre de santé de la zone, réhabilité par le chef coutumier des Bahema Banyuagi, n'est ni équipé ni approvisionné en médicaments. Une situation qui expose ces populations à des graves risques sanitaires, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Dans le même registre, les casques bleus de la MONUSCO intensifient leurs opérations en Ituri et au Nord Kivu pour protéger les civils face à l'insécurité persistante. Au Nord Kivu, des patrouilles conjointes robustes ont été menées le 20 janvier dans la région de Beni, dans le cadre de l'opération Umoja, dite Union, afin de réduire les menaces sécuritaires. En Ituri, après la mort d'un civil à Djaïba, près de 3000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont fui Djaïba, Dego et Lodjo dans le territoire de Djougou pour se réfugier autour de la base de la MONUSCO à Fataki, où les patrouilles ont été renforcées et une équipe d'intervention rapide déployée. Les précisions avec le lieutenant-colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO au micro de Martial Papi Mukeba.
En Ituri, à la suite du tragique incident survenu à Djaïba le 17 janvier, la priorité est la protection des populations vulnérables. Les casques bleus ont renforcé les patrouilles, notamment de nuit, et mis en alerte une équipe d'intervention rapide afin d'assurer la sécurité des civils autour de la base de Fataki. Au Nord Kivu, la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO a mené le 20 janvier 2026 plusieurs patrouilles robustes avec les FADC dans le cadre de l'opération Umoja. Les contingents tanzaniens, malaisiens et kenyans ont été déployés de jour comme de nuit sur les axes Sayo, Beni, Mavivi, Mbau, Oicha et Rengeti pour dissuader et neutraliser les groupes armés illégaux. Ces actions contribuent à renforcer la présence sécuritaire, à réduire les menaces contre les civils et à promouvoir un environnement plus sûr, favorable à la paix et à la stabilité dans les deux provinces. La MONUSCO réaffirme que la protection des civils demeure au cœur de son mandat.
Je le disais en titre, début vendredi à Lubumbashi, des audiences en procédure des flagrances à la cour d'appel du Haut-Katanga qui oppose le ministère public à trois magistrats de la cour d'appel du Tanganyika à un commerçant. Ils sont poursuivis pour corruption dans une affaire des tentatives de viol avec violence. Signalons que le président de la cour de cassation et le premier avocat général de la République venu de Kinshasa ont assisté à l'audience de ce vendredi. Le point avec Paul Monanga.
En juillet 2025 à Kalemi, une dame accuse en justice le commerçant Joseph Kafuimbi Kiwele pour tentative de viol. Le tribunal de grande instance de Kalemi ouvre le dossier et après le verdict est rendu, le commerçant est acquitté. Mécontente de ce verdict au premier degré, la dame va en appel à la cour d'appel du Tanganyika. Le 19 décembre dernier, la cour d'appel rend son arrêt. Elle condamne le commerçant Patrick Kafuimbi à 6 mois d'assignation à résidence surveillée et à 10 000 dollars américains d'amende. La peine prononcée par la cour d'appel du Tanganyika n'est pas suffisante au regard de la loi dans une affaire de tentative de viol, explique un magistrat. C'est ainsi que les trois magistrats de la cour d'appel du Tanganyika qui ont traité le dossier ainsi que les commerçants sont interpellés et un dossier est ouvert à leur charge pour corruption à la cour d'appel du Haut-Katanga. Au cours de l'audience, le ministère public requiert 3 ans de servitude pénale principale pour les prévenus magistrats et 2 ans pour les commerçants. L'audience est suspendue et renvoyée à lundi. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Non à l'exploitation des enfants pour des fins économiques et sexuelles. C'est le thème du carnaval de sensibilisation organisé ce samedi à Matadi au Congo central par l'association des motocyclistes du Congo central à Mokok et ses partenaires du réseau routier. Cette activité visait à toucher les différentes couches de la population concernée par la protection des droits de l'enfant. D'après le président de la Mokok, cette campagne appuyée par le Bureau international des droits des enfants cible en priorité les parents et responsables familiaux appelés à jouer un rôle central dans la prévention de l'exploitation des enfants. Nana Plurich Mambou, reportage.
Ce carnaval motorisé a été mené sur les grandes artères de Matadi. Les motocyclistes vêtus tous des t-shirts blancs portant mention « Non à l'exploitation des enfants à Matadi » ont sillonné toute la ville. Ils ont sensibilisé les parents et les enfants sur les méfaits de l'exploitation sexuelle et aux fins économiques des enfants. L'idée est de les aider à identifier les situations à risque et à connaître leurs droits. Cette campagne, d'après Bamo Bamonekene, président de l'association des motocyclistes du Congo central, ira jusqu'au mois de juin prochain. Les écoles, églises et marchés seront des principaux cadres d'intervention en tant que lieux stratégiques de transmission des messages de protection et compte tenu de leur influence sur les comportements sociaux. Le maire de Matadi, présent en cette activité, loue l'initiative et souhaite son expansion dans toute la province. Dominique Nkodiambete.
Un enfant de moins de 18 ans, sa place, c'est à l'école, ce n'est pas au marché, ce n'est pas dans les hôtels, non à l'exploitation des enfants. C'est un crime. Merci à la Mokok qui nous a amené cette initiative. Il ne doit pas arrêter cette campagne à mi-chemin.
L'association des motocyclistes du Congo central entend mener cette activité avec succès et obtenir des résultats probants en vue de gagner la confiance du Bureau international des droits des enfants qui l'a appuyé dans cette initiative. Matadi, Nana Pluri Mambou, Radio Okapi.
Retour à Nitouri où 32 jeunes et adultes ont achevé ce samedi 24 janvier une formation en langue anglaise et en autodéfense féminine. Les bénéficiaires venus des différents quartiers de Bounia ont salué l'initiative des casques bleus de la MONUSCO qu'ils estiment utile pour renforcer leur autonomie et les rendre plus compétitifs sur les marchés d'emploi. La cérémonie de remise des certificats s'est déroulée en présence des formateurs, des bénéficiaires et de plusieurs invités. C'est un reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Pour certains bénéficiaires, cette formation a changé leur manière de percevoir le monde. À 62 ans, Hussein Kaseba a décidé d'apprendre l'anglais pour lui faciliter d'entrer en contact avec le monde anglophone.
Il faut connaître l'anglais pour s'échanger d'abord, parce que vous arrivez à un milieu que vous ne connaissez pas la langue, ça sera difficile d'explorer ces pays-là.
Une autre bénéficiaire souligne l'impact de ses enseignements sur son autonomie personnelle, notamment pour faire face aux menaces et aux agressions physiques auxquelles elle peut être confrontée. Gloria Awadifo.
Ce sont les femmes qui sont confrontés au problème, surtout pour la violence sexuelle, raison pour laquelle on doit prendre aussi une autre manière pour se défendre face à de telles violences.
Présent à la cérémonie, le responsable des jeunes à Nitori a salué cette initiative qu'il considère comme une réponse concrète au chômage des jeunes avec l'appui de la MONUSCO. Deogracias Bungamuzi, président du conseil provincial de la jeunesse.
La MONUSCO aujourd'hui a jugé bon de former les jeunes en anglais, un secteur tellement important dans le secteur d'emploi. Comme vous le savez, plusieurs jeunes, faute d'encadrement aujourd'hui, se retrouvent dans des groupes armés.
À travers ce programme, le contingent bangladais de la MONUSCO entend contribuer à la promotion de femmes et d'hommes capables de s'intégrer professionnellement et de faire face aux défis sécuritaires de la vie quotidienne. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
La ville de Kananga, dans le Kasaï central, sera bientôt dotée d'une université moderne. Il s'agit de l'université de Kananga, construite à Katambaï, dont les travaux sont déjà à terme. Ce nouveau campus a une capacité d'accueil de 3200 étudiants et permettra d'améliorer la qualité de la formation. Alors, que renferme exactement ces nouveaux campus? Élément de réponse dans ce reportage d'André Katindengala Mouloumé.
Ce nouveau campus comprend 16 auditoires répartis dans 2 bâtiments, pouvant accueillir au total 3200 étudiants, soit 200 étudiants par auditoire. Il dispose également de 2 bâtiments administratifs et de 3 hommes pour étudiants, dont 2 réservés aux garçons et 1 aux filles, chacun offrant une capacité d'hébergement de 200 étudiants. Le campus est aussi doté d'une bibliothèque, de 2 ascenseurs, d'une cafétéria, des laboratoires et des salles machines. À noter que l'UNICAN compte 9 facultés, la médecine, le droit, les sciences économiques et de gestion, les sciences sociales, l'informatique, l'agronomie, l'école de santé publique, l'école supérieure des arts et métiers, ainsi que la polytechnique. Ces nouveaux sites viennent renforcer et améliorer la formation des étudiants et leur évitera de faire des déplacements pour aller dans d'autres universités se trouvant en dehors de la province. Ces déplacements impliquent des moyens supplémentaires à charge de parents. Cette nouvelle université vient donc rapprocher les étudiants de ces hauts lieux du savoir. Kananga, André Katindengala Moulmé, Radio Kapi.
La mutuelle de santé des enseignants a étendu ses activités dans la ville de Gbadolité, chef-lieu du Nord-Oubangui. La cérémonie officielle du lancement des MSP a été présidée le 22 janvier par le vice-gouverneur de la province, Odan Joseph Bongabo, en présence de plusieurs autorités politico-administratives et éducatives, ainsi que des enseignants. L'autorité provinciale a salué l'implantation de cette mutuelle dans sa province, estimant qu'elle contribuera à améliorer les conditions d'accès aux soins médicaux pour les enseignants du Nord-Oubangui. Des détails avec Askin Digbia.
Les enseignants de la ville de Gbadolité se sont dit heureux d'accueillir pour la première fois la délégation de la mutuelle de santé des enseignants venus de Kinshasa pour procéder à l'ouverture officielle de cette structure au chef-lieu du Nord-Oubangui. Selon la révérende sœur Marie-Faustine Beleko, secrétaire et exécutif national de la MSP, cette mutuelle fonctionne sur base d'un régime contributif des enseignants, ce qui permettra à ces derniers de bénéficier des soins de santé dans de bonnes conditions. Dans cette optique, le vice-gouverneur a encouragé les enseignants à régulariser leur situation matrimoniale afin de remplir les conditions d'éligibilité à la mutuelle.
Soyez honnêtes dans vos déclarations. J'ose croire aussi que les femmes des enseignants seront peut-être les plus heureuses parce que, enfin, ceux d'entre les enseignants qui n'ont jamais voulu assumer leur statut matrimonial vont se voir obligés de régulariser leur situation.
Grande a été la satisfaction des enseignants qui affirment être honorés par la concrétisation de cette mutuelle à laquelle ils contribuaient déjà par le versement de 5000 francs congolais depuis longtemps. Toutefois, certains d'entre eux sollicitent une mesure de clémence concernant la régularisation de leur mariage.
Le programme SheLead a organisé ce samedi 24 janvier une session de sensibilisation sur le leadership féminin efficace en faveur des femmes et filles rurales. L'activité s'est tenue en Gili Brasserie dans la commune de Lancélé, dans la salle Liziba, et a réuni plus de 80
participantes. Objectif, renforcer les capacités des femmes rurales, notamment dans les domaines de l'agriculture, et les encourager à défendre leurs droits à travers les plaidoyers. Nasia Tambo était sur place, voici son reportage.
Prendre la parole, diriger et défendre leur travail, c'est le message au cœur de cette sensibilisation. Selon Fanny Kamufuinkente, initiatrice du programme Chili, cette sensibilisation vise à aider les femmes à prendre conscience de leur potentiel et de leur rôle dans le développement de leur communauté.
L'objectif principal de cette activité, c'est de renforcer le leadership de la femme, surtout la femme maraîchère, qui joue un rôle important dans les secteurs agricoles et dans l'économie du pays.
Au cours des échanges, les participants ont salué l'initiative et exprimé leur espoir de voir ce type d'action se multiplier.
Nous sommes vraiment très contents de cette activité, nous les femmes maraîchères. Nous avons eu beaucoup de choses que nous n'avons pas encore attendues.
Pour la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment très wow pour moi.
Présent à l'activité, un conseiller municipal a encouragé les femmes à rester engagées et à continuer à jouer un rôle actif dans le développement local.
Je suis vraiment très ravi que ce genre d'activité aille de l'avant. Nous étions là pour encourager les mamans maraîchères.
À travers cette initiative, les femmes rurales espèrent désormais un accompagnement concret des autorités pour renforcer leurs activités agricoles.
Actualité internationale.
Un risque de violence massive contre les civils au Soudan du Sud. L'alerte est lancée par des experts indépendants des Nations Unies. Dans un communiqué publié dimanche 25 janvier, ils expriment leur grande inquiétude face à la situation à Jonglei, qui connaît des affrontements depuis fin décembre entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces loyales à l'ancien vice-président Riek Machar, arrêté fin mars 2025.
L'invité.
Les centres des opérations des urgences des santé publique digitalisent désormais le traitement des informations afin d'optimiser la gestion des rumeurs et des infodémies à travers le pays. Invité de Radio Capi, le coordonnateur de cette structure relevant de l'Institut national de santé publique, Dr Christian Gandou, exhorte la population à s'abstenir de diffuser de fausses informations sur une maladie au risque de désorienter le plan de gestion des urgences. Il indique avoir mis en place une cellule pour la gestion des infodémies et autres rumeurs liées au secteur de santé publique. Dr Christian Gandou s'entretient avec Blaise Dongala Mayanda.
Bonjour monsieur le coordonnateur.
Bonjour monsieur.
Quelle est la situation des gestions des urgences et des infodémies en RDC au cours de l'année 2025?
La situation des systèmes de gestion des infodémies a impliqué pratiquement toutes les sources qui génèrent, n'est-ce pas, les infodémies. On devait aussi essayer de voir quelles sont les thématiques en termes de contenu qui sont impliquées, n'est-ce pas, par rapport aux infodémies sur les urgences de santé publique. Vous n'avez pas oublié que l'année qui s'est écoulée, nous avons eu à travailler essentiellement sur les épidémies, notamment la mpox, le choléra, la rougeole, et même d'autres épidémies comme Ebola. Mais nous avions aussi eu à participer, à nous impliquer dans la gestion de certains événements de santé publique comme l'intoxication de l'environnement due à la contamination, par exemple, des eaux de boissons. Et en dehors de ça, il y a aussi des désastres, des catastrophes comme les inondations avec tout ce qu'il y a comme relais, notamment les déplacements massifs des populations dans des sites d'hébergement. Eh bien, tous ces événements que je viens d'énumérer ont bénéficié d'un traitement en termes de collecte, traitement, en termes d'analyse et des mesures correctives sur les infodémies que ces événements pouvaient générer dans le temps.
Alors, que faire selon vous pour lutter ou décourager des infodémies à travers les pays?
Bon, comme vous le savez, il y a certaines sources qui sont crédibles, il y a certaines sources qui ne sont pas crédibles, qui permettent aussi de générer certaines informations qu'on peut soit accepter, soit réfuter. Et donc, les acteurs qui sont impliqués dans le système de gestion des infodémies se sont réunis. Eh bien, je veux même insister, ce sont des acteurs multisectoriels. Parce que vous allez trouver dans cette évaluation qui vient d'être faite, qui est un élément très important, vous allez retrouver les acteurs des médias qui sont là-dedans. Vous allez trouver les acteurs communautaires qui sont dedans. Vous allez trouver les chercheurs, les scientifiques. Vous allez trouver là-dedans les acteurs des centres d'appel, les call centers comme on les appelle, vous allez trouver tous les acteurs du système de gestion des incidents que nous avons connus au-delà de l'année passée, et même les acteurs de différents programmes multisectoriels de la santé humaine, santé animale, santé environnementale, les organisations, on ne va pas oublier, et même les décideurs ont été aussi partie prenante. Donc,
après cette réunion d'évaluation, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est que nous avons eu à identifier une feuille de route. Et la feuille de route, la bonne chance, je veux dire, que nous avons, c'est que cette feuille de route, elle est concertée, elle est conjointe. Et dans cette feuille de route, chacun a un rôle et une responsabilité à jouer. Donc la feuille de route comprend les actions, les activités que nous allons mener au courant de cette année 2026 pour essayer de voir comment améliorer la collecte des infodémies en observant toutes les sources, en observant aussi tous les secteurs qui sont impliqués pour générer les infodémies pour les gens de santé publique. Deuxièmement, nous allons essayer de voir aussi toutes les actions, les activités qui sont liées aussi au traitement de ces infodémies et même comment est-ce que nous formulons les actions d'amélioration. Ça, c'est sur le point de vue du processus. Mais sur le point de vue structurel, il faudrait aussi qu'on mette très rapidement cette cellule de gestion des infodémies qui est déjà de fait mise en place, mais qui devra se formaliser rapidement pour que nous puissions avoir un cadre tout à fait reconnu et qui va commencer à gérer les infodémies. Et cette cellule va se faire sous, bien sûr, le centre conjoint d'information du centre d'opération d'urgence santé publique qui est situé au niveau de l'Institut national de santé publique avec l'implication de tous les secteurs que j'ai évoqués, santé animale, santé environnementale, santé humaine et bien d'autres secteurs aussi pertinents en dehors de ceux-là que j'ai cités et pourquoi pas les organisations. Donc ça c'est vraiment important, nous devons prendre cette feuille de route comme étant notre vademécum que nous allons suivre, qui va nous permettre de se présenter comme un fil conducteur que nous allons suivre durant toute l'année 2026.
Monsieur Christian Ngandou, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier. Oui.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.